Je dois faire du souci quant au devenir de l'homme sur la planète.
À commencer par ce pays
dans lequel je...
Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, il faut vous prendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là.
Il n'y a pas de différence entre l'islamisme et le terrorisme, si ce n'est une question de degré. Je partage votre avis.
Vous l'avez sans doute reconnu, ce générique fait de briques et de broc qui ouvre l'émission À 100 ans près sur Fréquence 7. À 100 ans près, c'est une émission qui tente d'identifier, d'analyser et de désamorcer les discours d'extrême droite. Pour cette émission, nous nous penchons sur un sujet éminemment complexe, c'est celui des femmes. Quel est le rapport de l'extrême droite aux droits des femmes? Quel est le rapport des femmes à l'extrême droite? On tente d'étudier ça au travers différents témoignages.
Est-ce que le féminisme, il faut qu'il être antifasciste? Alors, il faut qu'il être antifasciste, il faut qu'il être antiraciste, il faut qu'il être anticlassiste, il faut qu'il être beaucoup de trucs. Alors, le premier, c'est les droits. C'est vrai que ici, par exemple, à l'Espagne, avant, la femme, elle ne peut pas faire la votation. Alors, ils ont fait le suffrage universel, mais ils n'ont pas gagné le suffrage universel, ils ont gagné le suffrage féminin. Ok, c'est bien le féminin, mais on a besoin du suffrage universel, parce que moi, je suis brésilien en Espagne et je n'ai pas le droit à dire... comment on fait ?
L'opinion politique.
Ouais, c'est ça. Alors, oui, il faut être anti-fasciste, anti-raciste, anti-classiste et beaucoup de trucs plus. Alors, entonces, cualquier lucha que no tenga en cuenta los pueblos oprimidos es una lucha de privilegio. Entonces, cuando se habla de cualquier manifestación, se debe de recordar que se están bombardeando no solo Palestina, sino el Congo. Está en Sudán, aún están en guerra. Irak hace poco estaba, como está ahora mismo Palestina, en la guerra del Golfo, como pueden estudiar en las escuelas. Todo eso sigue pasando, pero silenciosamente. Entonces, cualquier día de concentración es bueno para recordar los genocidios que están sucediendo en este planeta tan chiquitito.
Juché sur son vélo, Djibril trimballe un balai de sorcière, un drapeau violet et noir et un drapeau palestinien. Selon elle, chaque rassemblement qui vise la justice sociale et l'égalité doit faire écho aux autres luttes émancipatrices. On est à Valencia, en Espagne, le soir du 8 mars. Plus de 25 000 personnes se sont rassemblées pour un 8 mars féministe, anticapitaliste et anticolonial. Une autre personne, ce soir-là, m'a expliqué que lors des éditions précédentes, le défilé officiel incluait notamment des groupes catholiques. Les incompatibilités évidentes entre l'Église catholique et la liberté des femmes ont conduit à ce deuxième cortège, qui a largement supplanté le premier en nombre, en énergie et en créativité. Parmi la foule immense, on a retrouvé, pêle-mêle, des drapeaux palestiniens, des slogans contre les violences conjugales, des pancartes Black Lives Matter, des banderoles pour le droit inconditionnel à l'IVG, des collectifs d'aide aux femmes migrantes, des panneaux anticléricaux. Si ce défilé a rassemblé tant de monde, c'est parce que le mot d'ordre était une convergence des luttes. Depuis une douzaine d'années, le féminisme connaît un nouvel essor, dans sa véhémence, dans ses convictions et dans ses contradictions. Plusieurs courants, nés d'une multiplicité de points de vue, qui sont liés à une multiplicité d'expériences, traversent la réflexion des femmes sur leurs conditions et, bien plus largement, la réflexion de notre société tout entière sur la condition des femmes. En 2017, l'émergence du hashtag MeToo dans le milieu du cinéma est devenue ensuite une lame de fond sociale. Un courant qui a poussé des dizaines de milliers de femmes à dénoncer les harcèlements, les viols et les autres incivilités dont elles sont les victimes, quel que soit leur milieu social ou leur couleur de peau. la multiplication soudaine et continue de témoignages, de dépositions et de plaintes de femmes à l'encontre de leurs conjoints, collègues ou patrons reflète une chose. Les femmes sont bien souvent en position d'infériorité et de vulnérabilité par rapport aux hommes. Statistiquement, on se rend compte que les femmes sont toujours en minorité dans les gouvernements, dans chaque institution, en tout cas aux fonctions régaliennes. Pourtant, en France, elles sont 35 millions pour 33 millions d'hommes. Elles sont moins payées que les hommes à compétences et à travail égal, les victimes de violences conjugales sont principalement des femmes, et elles sont assignées à un rôle social que l'on prétend naturel. Matrices, épouses, patientes et dévouées, elles sont la fécondité, la douceur et le domicile. Cependant, on ne peut pas demander à plus de la moitié de la population d'être d'accord sur tout. Il y a en France 35 millions d'identités féminines, différentes approches de la féminité, et donc bien des voix qui s'élèvent. Être une femme, c'est quoi? Biologiquement, anatomiquement, on voit globalement bien la différence avec les hommes. Mais socialement? En 1949, Simone de Beauvoir écrivait, dans son ouvrage Le deuxième sexe, « Qu'on ne naît pas femme, on le devient ». La lutte féministe dans son ensemble revendique à minima une égalité de droits et une justice sociale. En cela, le combat féministe s'inscrit dans la même dynamique que la lutte contre le racisme.
Être de chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant. Je rêvasse, je dessine, passe à la piscine, l'été, le reste du temps sur plage, je prends racine. Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent. Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens. Locataire d'une cité où les tours sont austères, mon histoire c'est d'y être noir, donc minoritaire. Hébété par les débilités que la télé déblatère et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. Arrêtez la routine, remettez la bobine et évitez de laisser le bitume irriter les rétines. Cessez de bousculer l'exclu à la gueule masculine. Mes origines et mon air androgyne, je ne sais pas faire sans. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et je suis dissipé, mal dans ma peau. Je fais des 100 pas, mais ne sais pas où trouver mon drapeau. Comme très tôt trempé par la bave du crapaud, je me sens dupé et trompé par le reste du troupeau. J'ai fripé la copie ou effrapé l'épopée des impies accro à l'utopie qu'on a estropié. Et j'ai pillé avec dépit ce pays développé où sans répit on doit palper pour payer ses impôts. Et la peur du faux départ demeure mon repère dans les remparts et sous les regards des langues de vipères. Le manque de victoire forge mon caractère, mon territoire ne va nulle part, normal je me perds. Marre du crépit, je voudrais m'échapper, grimper sur le tapis volant qui saura m'attraper. Flipper de participer à ce grand souper, je veux juste m'occuper de taper mon propre tempo. Et le temps ne va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et encore aujourd'hui, bien que j'ai grandi, j'ai su garder un esprit de gosse attardé. Je ne pense qu'à les arder du lundi au samedi. Les vieilles pies que ça doit emmerder peuvent me regarder. Je me tape des ondits, des comptes rendus idiots que ces maudits aiment faire dans mon dos pour me saborder. J'ai horreur du temps perdu à porter un fardeau avant d'attendre ce fameux repos qu'on va m'accorder. Et je n'aime que ma plume, idem pour mes rimes. Quand sur mon barème, c'est le mot haine qui s'imprime. C'est mon sérum qui supprime la rue, ses problèmes. Quand son programme ne me vend que drame et déprime. Vivre l'âme vidée, le crâne téléguidé. Par la thune avant de quitter l'antenne en panne héritée. N'est pas dans ma nature, laissez-moi décider de ma trajectoire et simplement faire à mon idée. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité.
C'était Kazé sur Fréquence 7 qui défend avec talent et avec verve son droit à poursuivre des rêves illimités. Des rêves d'émancipation et de justice qui, souvent, se heurtent à des discours réactionnaires. Il est aussi des femmes pour qui la soumission aux hommes est un fait naturel, alors donc aux hommes le travail, la force, la mécanique, et aux femmes la cuisine, la beauté et l'électroménager. Aux blancs, le pouvoir et la paix, aux autres, la guerre et la servilité. Les positions rétrogrades pour ce qui a trait aux femmes ne sont pas l'apanage de l'extrême droite. La droite classique et la gauche traditionnelle n'ont pas toujours pris clairement position en faveur des droits des femmes. L'accès au droit de vote des femmes s'est fait sur un fond de calcul électoraliste, et non avec des visées d'émancipation. En France, c'est le mouvement qui a abouti à la légalisation de l'avortement qui a commencé à polariser les points de vue. Écoutons l'analyse de Mathilde Larrère, historienne, au micro d'Hugo Paletta.
Alors en fait, là, quelque part, je reviens sur la question que tu me posais tout à l'heure. Quelle est la spécificité de l'extrême droite? La spécificité de l'extrême droite sur toutes ces questions-là, elle va en fait se marquer autour des années 80. Et elle ne se marque pas parce que elle, l'extrême droite, changerait sur les conceptions des femmes, mais parce que la droite change. En fait, avant, je l'ai dit, hein, la droite et l'extrême droite partagent exactement les mêmes conceptions, la même essentialisation, la même naturalisation, la même biologisation et le même refus, contraception... Et IVG. Lors de la loi Veil, hein, la droite comme l'extrême droite sont opposées à la loi Veil et pareil, même si c'est un petit peu moins pour la droite, en 79. En fait, ce qui se passe, c'est que quand Chirac devient Premier ministre en 86, les anti-IVG se disent « Yes, c'est bon, ça y est, on va pouvoir enfin supprimer la loi Veil », sauf qu'il dit qu'il ne reviendra pas dessus. Et à partir de là, l'extrême droite va devenir quelque part le bastion, le réservoir, la dernière citadelle de ceux qui sont contre l'IVG. Et c'est là que vraiment elle se distingue. C'est donc cette confusion qui est pas toujours facile à établir, parce que franchement, quand on regarde l'extrême droite avant, n'importe quel candidat de droite et qui plus est de droite un peu catho peut sortir la même chose. Mais à partir du moment où la majorité de la droite, pas toute évidemment, mais la majorité de la droite finit par se rallier à l'idée que il faut vivre avec son temps et que les femmes ont le droit d'interrompre volontairement leur grossesse, eh bien l'extrême droite là va clairement marquer une différence. Et effectivement, un des moyens de le marquer, c'est que l'extrême droite va être très proche des groupes anti-IVG, notamment des commandos anti-IVG qui vont sévir justement dans ces années entre le retour de Chirac, donc le moment où en gros, les anti-IVG comprennent qu'ils ne peuvent plus compter sur la droite parlementaire, que l'extrême droite n'est pas assez puissante au Parlement pour leur offrir le moindre espace. Donc, ils vont avoir un changement de répertoire d'action, c'est assez classique, et recourir à la violence. Il y a une autre caractéristique d'ailleurs de l'extrême droite sur la question de l'IVG par rapport à la droite, c'est que quand l'extrême droite parle de l'IVG, elle a toujours, en fait, elle est toujours en point Godwin, en gros, si l'on peut dire. Toutes les métaphores qu'ils utilisent sont en référence à l'extermination des Juifs d'Europe. Donc, les cliniques d'avortement, dans leurs journaux, dans leurs articles, deviennent des camps de la mort. Le RU486, donc la pilule abortive, et le Zilkon B moderne. Ils parlent de crimes contre l'humanité quand ils parlent d'avortement, ou de génocide anti-français, ce qu'on retrouve même encore maintenant chez Zemmour. Ils font des pèlerinages, ils appellent ça comme ça, mais des voyages à Auschwitz pour faire le parallèle nauséabond entre la Shoah et l'avortement en France. Donc, et ça, c'est propre à l'extrême droite. Ça, on ne trouvera pas ça en tout cas, ou alors de façon très exceptionnelle, dans la droite plus classique, mais qui ne tombe pas complètement dans l'extrême droite, quoi.
Aujourd'hui, on assiste à un retour en force des positions réactionnaires. Si on connaît depuis longtemps les discours machistes de certains hommes, pour lesquels la femme est avant tout une matrice, on voit de plus en plus de femmes qui s'érigent en défenseuses de leur droit à être des potiches, au nom d'un essentialisme très old school. Les arguments sont aussi vieillots que Catherine Deneuve, qui défendait en 2017 son droit à être importunée. Le courant des tradwives, qui est né aux États-Unis, met en scène des influenceuses qui décrivent leur mode de vie bienheureux de femmes au foyer, qui s'occupent à cuisiner, à faire le ménage, à se maquiller et partagent leurs astuces. Résolument tournée vers les années 50, la contre-révolution des tradwives prône la famille traditionnelle, la soumission au mari et défendent leur rôle essentiel de femme, plaire aux hommes. Mais l'argumentaire des tradwives est mis à mal par une simple distinction qui doit s'opérer entre celles qui font le choix d'être une femme au foyer, docile et aimante, et celles qui aimeraient simplement avoir le choix d'être ce qu'elles veulent. Revendiquer un choix personnel n'empêche pas de lutter pour que tout le monde ait accès à ce choix. En France, la penseuse, écrivaine, réalisatrice Virginie Despentes défraie la chronique et instille dans le débat une idée ravageuse. Les femmes ont droit à la virilité, à la violence, à la puissance, au rapport de force. Puisqu'elles se sont vues confisquer leur rapport à leur propre corps par un système aussi ancien que bien rodé, elles ont le devoir de se réapproprier leur sexualité, leur liberté de mouvement et leur rapport à la maternité. En 2006, dans King Kong Theory, elle écrit:
quand Sarkozy réclame la police dans l'école ou Royal l'armée dans les quartiers, ce n'est pas une figure virile de la loi qu'ils introduisent chez les enfants, mais la prolongation du pouvoir absolu de la mère. Elle seule sait punir, encadrer, tenir les enfants en état de nourrissage prolongé. Un état qui se projette en mère toute puissante est un état fascisant. Les citoyens d'une dictature revient au stade du bébé, langé, nourri et tenu au berceau par une force omniprésente qui sait tout, qui peut tout, a tous les droits sur lui pour son propre bien. L'individu est débarrassé de son autonomie, de sa faculté de se tromper, de se mettre en danger. C'est ce vers quoi notre société tend, possiblement parce que notre temps de grandeur est déjà loin derrière nous. Nous régressons vers des stades d'organisation collective infantilisant l'individu. Dans la tradition, les valeurs viriles sont les valeurs de l'expérimentation, de la prise de risque, de la rupture avec le foyer. Quand de toutes parts la virilité des femmes est méprisée, entravée, désignée comme néfaste, les hommes auraient tort de se réjouir ou de se sentir protégés. C'est autant leur autonomie que la nôtre qui est remise en cause. Dans une société libérale de surveillance, l'homme est un consommateur comme un autre, et il n'est pas souhaitable qu'il ait beaucoup plus de pouvoir qu'une femme. Le corps collectif fonctionne comme un corps individuel. Si le système est névrosé, il engendre spontanément des structures autodestructives. Quand l'inconscient collectif, à travers ses instruments de pouvoir que sont les médias et l'industrie de l'entertainment, survalorise la maternité, ce n'est ni par amour du féminin, ni par bienveillance globale. La mère, investie de toutes les vertus, c'est le corps collectif qu'on prépare à la régression fasciste. Le pouvoir qu'un état malade octroie est forcément suspect. On entend aujourd'hui des hommes se lamenter de ce que l'émancipation féministe les dévirilise. Ils regrettent un état antérieur quand leur force prenait racine dans l'oppression féminine. Ils oublient que cet avantage politique qui leur était donné a toujours eu un coût. Les corps des femmes n'appartiennent aux hommes qu'en contrepartie de ce que les corps des hommes appartiennent à la production en temps de paix, à l'État en temps de guerre. La confiscation du corps des femmes se produit en même temps que la confiscation du corps des hommes. Il n'y a de gagnant dans cette affaire que quelques dirigeants.
L'instrumentalisation de la maternité par l'État aboutit à l'infantilisation des citoyens, hommes comme femmes. Et pour renverser le rapport de force, la seule solution à envisager, c'est l'émancipation des femmes. Virginie Despentes, avant de devenir cette intellectuelle renommée, s'est d'abord lancée dans le rap punk. Avec les Straight Royers, au tournant des années 90, elle annonçait déjà la couleur.
Avec la peur, apprendre à vivre avec la peur. sont souvent ressemblés aux clichés des mutants papier. I wanna walk around lockdown. I don't wanna be a victim. I wanna walk around lockdown. I don't wanna be a victim anymore. Je ne prends pas me sans braver, c'est pas inondé pour faire bon. Je vais être la femme sans braver, c'est pas inondé pour faire bon. Dans la rue, le regard des gens se frotte sur toi et leur destin la menace. Quand leur fusil toujours dégradant. Tu as un corps, c'est pour le vent, tu as un corps, il les apprend. Tu as un corps, c'est pour le vent, tu as un corps.
Hélas, à toute révolution, sa contre-révolution, tandis que Virginie Despentes est lue et promue par un grand nombre de personnes, toujours en France, Thaïs Descuffon, l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire, publie à tour de bras des vidéos sur l'antiféminisme. Les titres de ces vidéos vont de « Le féminisme est un cancer » à « Arrête d'être gentil ». Quand elle parle de relations hommes-femmes, Thaïs s'adresse en fait aux hommes, qui se sentent rejetés par les femmes émancipées. Des hommes qui remplissent tous les critères de la virilité, mais n'arrivent pas à séduire. On les appelle les incels, les célibataires involontaires. Les incels se raccrochent à un courant de pensée qui prend de l'ampleur en réaction au féminisme, c'est le masculinisme. Dans ce courant, on trouve toutes les gammes de machisme, avec une approche viriliste de la masculinité et une tentative d'unir la force mâle du monde pour contrer les femmes qui s'émancipent. Alors le style de Thaïs Descuffon est particulièrement imbuvable. Non seulement le fond de sa pensée est pauvre, mais en plus le montage ultra saccadé de ses péroraisons les rend inécoutables. On s'en offre quand même un extrait, une vidéo express intitulée « Les hommes féministes ».
Oui, il y a énormément de gens qui se retrouvent dans mon discours. Il y en a qui, parce qu'ils ont trop intériorisé cette propagande-là, n'ont même pas forcément conscience qu'ils sont influencés par la société moderne. Il va aussi y avoir ceux qui espèrent profiter de ce système-là pour avoir accès à plus de femmes. C'est tous ces hommes qui se proclament féministes, simplement pour séduire des féministes, ce qui ne marche pas du tout, en imaginant que parce qu'ils vont être dans l'équipe des femmes, les femmes vont les aduler, alors que en général, c'est même plutôt l'inverse. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont été élevés par des mères féministes, qui leur ont appris qu'il ne faut pas aborder une femme sans être parfaitement sûr d'avoir son consentement, il ne faut pas être toxique, tous ces mantras qu'on leur a répétées depuis leur plus jeune âge par des mères féministes divorcées qui ont un peu divisé en fait ces jeunes hommes qui n'ont jamais eu l'occasion de vraiment exprimer leur pleine masculinité et leur féminité, qui ont du mal à franchir le pas. Il y en a certains qui vont se rendre compte de tout ça dans la douleur et qui vont faire le choix de changer de mentalité, et il y a ceux qui ne vont pas faire ce choix-là. Je donne mon avis, on se retrouve dedans, tant mieux, et j'essaie de donner des solutions et des outils aux hommes pour comprendre les femmes. Si on n'est pas d'accord avec moi, ben, adieu va.
Merci Thaïs, c'est quand même rassurant qu'on ne soit pas obligé de se retrouver dans ta meute de chien. Surtout qu'il faut bien l'avouer, Thaïs vomit un charabia de concepts capillotractés, d'amalgames bas de gamme et d'idées haineuses. Bref, une vraie influenceuse d'extrême droite. Quand elle ne parle pas du cancer féministe et des méfaits de la société moderne, elle fustige les étrangers et l'islam, elle encense la race blanche et la violence. Toujours en jouant sur l'affect et l'émotion de son public, elle jongle avec des concepts fallacieux et elle propose une vision de la société qui fait plutôt froid dans le dos. Une France peuplée de bourrins ariens, frustrés et qui procréent avec des filles de l'Est pour préserver la civilisation européenne? Bref, Thaïs d'Escuffon est dangereuse. Mais elle n'est pas la seule à proposer une vision différente du rôle de la femme dans la société. Pour l'extrême droite institutionnelle, la féminité, c'est un vrai casse-tête. Comment séduire cet électorat nombreux, puisqu'elles sont majoritaires, sans déroger à la ligne traditionnaliste d'un parti? Si Éric Zemmour a pris le parti d'être totalement misogyne et résolument opposé à l'émancipation des femmes, le Front National tâche quant à lui de jouer la carte de la finesse. Marine Le Pen fait des pieds et des mains pour vivre avec son temps, accepter que les femmes travaillent, composer avec ces femmes entrepreneuses et émancipées qui ne reviendront jamais en arrière, tolérer l'idée que les mères célibataires sont nombreuses et pas nécessairement réceptives au discours du masculin tout-puissant. Magali Della-Souda, chercheuse en sciences politiques rattachée au CNRS, a publié en 2022 Les Nouvelles Femmes de Droite. Dans son ouvrage, elle s'interroge sur les idées et la propagande diffusées par des groupuscules de jeunes femmes, militantes identitaires et féministes parfois ouvertement revendiquées. Au micro d'Hugo Paletta, Magali Della-Souda nous explique le socle commun à ces différents groupes.
Alors le socle commun, c'est d'abord leur opposition frontale, assumée aux politiques d'égalité de genre. Ça, c'est très clair. L'autre point commun, c'est la référence à un sujet politique, femme. Ce sont les femmes nées femmes qui peuvent parler au nom des femmes. Belle et Rebelle et le collectif Némésis appartiennent toutes les deux à la famille, on va dire, des mouvements politiques identitaires qui mettent en avant la dimension civilisationnelle de l'identité politique. Et cette dimension, elle est civilisationnelle, elle n'est pas centrée sur la nation, elle est potentiellement européenne. Et le but de Belle et Rebelle va être de mettre à la portée de femmes ordinaires des discours identitaires via un webzine féminin. Donc, il y aura des tutos pour se coiffer comme des européennes, par exemple, avec des petites rubriques de mode et de shopping identitaire, avec des articles plus de fond. Hein, donc, c'est un petit peu à ça que ressemblait Belle et Rebelle. Et le collectif Némésis verra le jour quelques années plus tard, en marge d'une manifestation contre les violences faites aux femmes, pour interpeller les féministes qui se seraient rendues coupables de masquer en fait le véritable responsable des violences faites aux femmes, qui serait le patriarcat d'origine africaine, musulman, et donc patriarcat qui serait incarné hein, par les immigrés ou les musulmans en France. On est contre l'idée que l'ennemi principal, c'est le patriarcat. Nous, on veut pointer spécifiquement un type de patriarcat qui est le fauteur de troubles dans nos sociétés où l'égalité règne, qui est ce patriarcat non occidental d'origine africaine.
Éric Zemmour dit le patriarcat des caïds de banlieue. Éric Zemmour qui est accusé par ailleurs d'agression sexuelle par 8 femmes, si je ne m'abuse.
Bon, j'ai dû sortir les ciseaux pour vous extraire la quintessence de son analyse, mais je vous invite à y aller écouter l'entièreté du podcast Minuit dans le siècle, qui est diffusé sur la plateforme Spectre. On comprend à présent que le positionnement des femmes face au discours d'extrême droite est délicat et complexe. La seule véritable position commune qui se dégage, comme toujours, est raciste et identitaire. En accusant le patriarcat africain d'être à la base des violences envers les femmes, elles occultent complètement la violence bien réelle que les hommes blancs exercent sur les femmes depuis bien longtemps. Oh ! L'émission tire à sa fin et je crois que ma mission est accomplie. On vient de démontrer que l'émancipation des femmes ne pouvait pas passer par l'extrême droite. Il est d'ailleurs l'heure de rendre l'antenne et de vous laisser commencer l'apéro. On est vendredi, Vous êtes toujours sur Fréquence 7 et vous écoutiez À 100 ans près. À la prochaine, bon week-end, salut à vous et no pasarán.
Siempre tiene que ser antifascista, el feminismo tiene que ser transversal y atravesar todas las esferas de la vida. Y una de ellas es el fascismo, obviamente. Un sistema fascista nunca va a ser feminista, al contrario. Ya está.